nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, s'il y a bien une question dont ne se lassent pas les enfants dès l'âge de 4 ans, c'est pourquoi ? Amusant au début, le pourquoi peut vite devenir infernal pour les parents. Et puis en grandissant, très souvent, les enfants cessent de questionner. Et c'est certainement un tort, car s'interroger et prendre ce qui nous entoure, c'est le début d'une démarche scientifique. Et cette démarche scientifique permet d'affronter les fausses croyances, de se forger sa propre opinion, de lire le présent pour le comprendre et le déchiffrer. Depuis 2004, le prix Pourquoi de l'Académie des sciences distingue de nouvelles méthodes pédagogiques visant à la diffusion grande échelle de l'esprit scientifique. J'ai le plaisir de recevoir dans cette nouvelle émission la lauréate 2010, Madame Afaf Mikou, qui nous expliquera dans quelques instants le principe de ces ateliers de sciences dans les zones rurales reculées du Maroc, et le président du prix Pourquoi, Monsieur Édouard Brézin. Madame, Monsieur, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Avant de venir au concret et de parler de votre expérience à Afaf Mikou, peut-être, Édouard Brézin, pourriez-vous nous dire pourquoi le prix Pourquoi s'écrit-il P-U-R-K-W-A ?
Alors c'est la volonté d'un homme qu'il faut tout de suite évoquer, qui malheureusement vient de disparaître, qui a voulu le prix Pourquoi, qu'il a imaginé, qu'il a porté, qui s'appelait Georges Charpak, qui était à la fois un très grand scientifique, il avait eu le prix Nobel pour ses recherches, mais qui était un homme convaincu que l'éducation scientifique était une éducation à fabriquer de véritables citoyens, des gens qui réfléchissaient par eux-mêmes, qui n'étaient pas à la merci de la pensée toute faite, impliquée, de gourous, et qui voulaient avoir des gens qui réfléchissent. Et donc, qui pose des questions. Il a choisi une orthographe bizarre pour ce pourquoi, parce que il pensait que ça pourrait se lire dans toutes les langues. J'avais timidement essayé de lui dire que ça ne se lisait dans aucune, mais il a néanmoins choisi ce titre. C'est donc un grand mouvement qui repense l'éducation à partir d'une démarche d'inquisition, de questionnement, de se poser des questions et non pas d'écouter la bouche grande ouverte qu'on vous entonne des lois ou des vérités toutes faites.
Alors précisons, effectivement, c'est un prix international, ça s'adresse à tous les pays du monde.
C'est un grand prix international, c'est donc la 6e édition. Il y a eu dans le passé à chaque fois 2 lauréats, il n'y en a qu'un cette année. Il y a eu donc sur les 11 lauréats, si je compte vite, une seule fois un lauréat français qui était en fait l'équipe de la main à la pâte que nous connaissons bien, qui doit elle aussi à Georges Charpak, accompagné de Pierre Léna et Yves Quéret, qui ont mis en place un mouvement qui en France a une importance majeure. Donc le prix visait à reconnaître à la fois des éducateurs dans des grands pays développés comme le nôtre, comme les États-Unis, il y en a eu de très actifs et de très vivants, mais les gens qui sont dans des situations plus difficiles, des pays où rien n'est donné à l'avance, et la lauréate de cette année, Madame Afaf Mikou, qui est professeure à l'université de Casablanca, mais c'est pas la physico-chimie qui est son métier et qui est là récompensée, est allée dans des régions reculées du Maroc où il y a un analphabétisme très important, où les filles sont vite retirées de l'école. Voilà ce qu'a été sa préoccupation.
Et donc, nous allons en parler dans quelques instants. Auparavant, vous avez parlé de la main à la pâte également, oui, laissée par Georges Charpak. Est-ce que le prix Pourquoi est une prolongation de la main à la pâte ou est-ce que c'est un prix qui se distingue de la main à la pâte?
Alors, c'est complètement distinct de la main à la pâte, mais c'est le même mouvement intellectuel. Il s'agit, à mon avis, du seul grand prix international qui cherche à encourager les éducateurs qui repensent l'éducation des sciences dès le plus jeune âge. La main à la pâte chez nous était un exemple, il y en a d'autres, et je crois qu'il n'existait aucun prix qui reconnaisse ces éducateurs qui bien souvent sont des gens qui ont travaillé dans des milieux très difficiles, parfois même des milieux politiquement pas très porteurs. Nous avons eu une lauréate chinoise, je pense qu'elle s'est heurtée à une absence de consensus politique sur le questionnement qui est la base des méthodes qui sont là. Nous avons voulu reconnaître qu'elle avait bravé des difficultés de beaucoup de nature.
Afaf Mikou, vous êtes scientifique, professeur à la faculté des sciences de Aïn-Chok à Casablanca. Vous êtes depuis 2006 membre de l'association Les Rangs d'Honneur. Rangs et plus loin d'Honneur, association installée au Maroc. Il s'agit d'une équipe médicale qui transforme le temps d'un week-end par mois des écoles, des zones rurales reculées du Maroc, en hôpital. Vous les accompagnez non pas pour prodiguer des soins, mais pour rencontrer les enfants et leur proposer des ateliers de sciences concrètes, si je puis dire. Vous allez pouvoir nous en parler dans quelques instants. Mais auparavant, pourquoi vous intéresser aux plus jeunes, revenir au stade de l'école primaire alors que vous avez déjà des étudiants à la fac?
Oui, c'est tout à fait justifié, votre question. Je vais quand même faire un petit flashback sur mon cursus. Donc, je suis partie du Maroc en 1982. Je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans, donc jeune, pour poursuivre des études supérieures en chimie physique. Par la suite, donc, j'ai soutenu une thèse dans un prestigieux institut qui s'appelle l'Institut des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. Et nous avions à l'époque publié lors de ma thèse la première protéine faite par ARMN donc, dans ce laboratoire. Et j'ai ensuite intégré le CNRS sur concours. Donc parallèlement à ces travaux de recherche donc en ARMN en modélisation moléculaire et à l'enseignement que je dispensais à Orsay, j'ai, je vous l'avoue, toujours été très impliquée dans tout ce qui concerne la diffusion de la science auprès du grand public, avec un intérêt très particulier et vraiment très grand pour les enfants. Donc, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup participé au programme La main à la pâte. Par la suite, donc, je suis retournée au Maroc et j'occupe, comme vous le savez, donc, un poste de professeur universitaire à la fac de sciences à Aïn-Chok de Casablanca. Et je vais être sincère avec vous, face à ces étudiants, j'ai remarqué quand même une curiosité, disons très discrète, souvent des étudiants scientifiques hein, pour les sciences. Et bon, ça m'inquiète. Et je me dis que le mal est là, mais qu'en fait, on peut aller voir aussi les enfants. Donc même au Maroc, j'ai poursuivi mes actions pour aussi participer, par exemple, à la Semaine de la Science, toujours la diffusion de la science auprès du grand public, et toujours un intérêt pour les enfants. Donc j'ai aussi participé à des programmes, type main à la pâte, avec des inspecteurs et des enseignants du primaire.
Et alors, petit à petit, donc, vous rejoignez l'équipe Les Rangs d'Honneur. Donc ça se passe en 2006. Et vous rejoignez cette équipe après une formation à l'UNESCO, où la formation à l'UNESCO intervient après.
Voilà, en fait, même en suivant ces enfants, j'ai toujours eu une pensée très très forte pour le monde rural. Parce qu'en fait, il faut savoir que 42% de la population vit dans le milieu rural. Il y a énormément de disparités, et je mesure le mot énorme, entre les villes et le monde rural. Disparités au niveau des moyens, des ressources, mais aussi au niveau du problème de genre. Et en fait, il faut savoir que bon, maintenant, le taux de scolarisation est tout à fait raisonnable pour les enfants dans le milieu rural, pour les filles aussi, 95% au niveau du primaire, mais que ces chiffres s'effondrent quand on s'intéresse au collège et au lycée. Alors, il y a énormément de programmes qui se mobilisent, des programmes nationaux pour un petit peu contrer cette disparité et remédier à ces questions-là. Et en fait, bon, il y a notamment un programme phare qui s'appelle l'INDH, l'Initiative Nationale du Développement Humain, qui sert cette cause. Et en fait, le programme que j'ai développé, qui s'intitule Eliette Félagine, donc la main à la pâte en français, et Sciences citoyennes, rentre tout à fait dans le cadre de ce programme-là. Alors, le tout, c'est qu'il fallait aller à la rencontre de ce milieu rural, de ces populations. Et j'ai attendu cette occasion. En fait, j'étais à l'affût d'une opportunité pour pouvoir aller à la rencontre de ces enfants dans le milieu rural, mais bien entendu, en adaptant au contexte. Alors, l'opportunité est venue en 2006, justement, en joignant cette association donc, que vous avez présentée et qui compte maintenant 1000 membres. Et nous sortons, en fait, le temps d'un week-end à 100 personnes, essentiellement des médecins. Et donc, en fait, voilà, on arrive un samedi matin, bien sûr avec plusieurs prospections à l'avance, dans une classe investie en hôpital, où il y a plusieurs spécialités dans les classes. Et il y a aussi des ateliers pour enfants, parce qu'on se charge des enfants qui viennent soit pour consulter, soit ils attendent souvent toute la journée leurs parents. Donc, on les prend en charge pour des ateliers ludiques, ça peut être d'art plastique, ça peut être des ateliers de prévention bucco-dentaire, etc. Mais nous, on est là pour intervenir avec des ateliers scientifiques en rapport avec souvent les problématiques de leur quotidien et surtout dans le but de leur améliorer leurs conditions de vie.
Alors, c'est là que vous intervenez pour faire des ateliers de sciences sciences, je disais de sciences concrètes, c'est-à-dire des choses directement applicables. C'était aussi un de vos souhaits de leur proposer des ateliers de sciences, mais qu'ils puissent peut-être s'approprier par la suite.
Tout à fait. Je pense que de toute façon, on est là le temps d'un week-end, on revient souvent plusieurs mois après, etc. Quand il y a une demande, quand les instituteurs s'impliquent, donc quand il y a une réelle implication, on cherche à revenir parce qu'on veut vraiment mesurer l'impact. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut le temps de ce week-end délivrer des messages concrets et surtout qu'ils soient utiles. Parce que dans le milieu rural, il n'y a pas la place à la fantaisie. On ne peut pas se permettre de faire des petites choses rigolotes. Oui, ludiques pour l'enfant, mais qui servent pour son quotidien. Parce que le message, en fait, il faut qu'on le dise, la cible première est l'enfant, mais à travers lui, les parents qui sont souvent analphabètes et surtout les mères qui sont pour la plupart analphabètes. Donc, je pourrais par exemple vous décrire concrètement comment ça se passe, si vous permettez.
Quels sont les ateliers, bien sûr,
voilà,
qu'ils animent.
Bien entendu, on est plusieurs à intervenir. Alors, il faut savoir, quand je dis que la campagne, ce sont des soins gratuits, vous pouvez imaginer l'afflux de ces populations. Par exemple, passer lors d'un week-end 800 patients. On peut cibler 500 enfants. Donc, c'est vraiment une population nombreuse qui.
Donc, vous animez des ateliers avec 500 enfants ?
Oui. Alors, bien entendu, on est plusieurs. Et mes étudiants sont là pour m'épauler, pour m'aider. Et bien sûr, on essaie de faire ça de façon pédagogique. Donc, on a des ateliers d'une vingtaine d'enfants. Mais il y a toujours une petite mise en scène. Il faut que je vous décrive un petit peu l'atmosphère parce que sinon... Alors, par exemple, on va prendre l'exemple des régions montagneuses. Régions montagneuses, souvent, c'est des régions qui sont loin des côtes. Et souvent, on l'a vu, ce sont des régions qui consomment le sel gemme et qui souffrent de répercussions graves dues aux carences en iode. Donc, le sel gemme ne contenant pas de l'iode, il y a des répercussions graves sur la santé. Que, bien entendu, notent les médecins qui sont sur place. Donc, l'enfant vient pour consulter pour ces maux-là, mais aussi, des fois, bon, accompagne la maman qui a des soucis de santé. Alors, nous, dans cet atelier, on part d'une petite ambiance un peu de la mer, hein, parce que c'est le propos, le sel marin, et on va projeter des vagues, une bande sonore avec des mouettes. Il faut savoir que ce sont des enfants qui, souvent, n'ont jamais vu la mer, donc c'est fascinant. On arrive aussi, alors là, avec du sable, hein, des conteneurs de sable, on joue, on fait des pâtés de sable. Les ateliers, ça touche les enfants à peu près entre 6 et ça peut aller jusqu'à l'adolescent, donc 12-13 ans. Et alors, on s'amuse et après, on passe à une dégustation d'eau de mer. Donc déjà là, l'enfant, il est assez surpris parce qu'il goûte à l'eau de mer, il sait que c'est salé. Après, on fait une petite expérience quand même scientifique, on évapore avec ou sans sèche-cheveux, suivant s'il y a l'électricité ou pas, hein, parce que bon, plusieurs écoles ne sont pas accordées au réseau électrique. Donc au soleil, hein, le soleil ne manque pas au Maroc, donc on attend un petit peu. Et on voit que, un petit peu comme dans les marais salants, on voit un résidu de sel. Et on goûte, hein, bien entendu, il faut toucher, c'est un petit peu le principe de la main à la pâte. Et on goûte et on veut provoquer l'enfant en lui disant, on va comparer le sel que tu as dans ton assiette, ce sel marin dont tu ne disposes pas, et le sel commercial avec ce fameux petit logo de soleil. Et on goûte, on voit la couleur avec vraiment, en faisant appel au sens, et c'est sel complètement comparable au niveau du goût, au niveau de l'aspect. Et là, on passe à une petite expérience et on fait une révélation d'iode, on ne leur dit pas, hein, avec une petite coloration. Et alors, c'est magique. Test négatif pour leur sel gemme, donc pas du tout de présence d'iode. Pour le sel marin, à peine, donc c'est pas perceptif, c'est un test, on va dire, négatif. Et le sel commercial qui est enrichi en iode, donc avec une coloration bleue. Et là, l'enfant, par la preuve scientifique, il sait qu'il y a une substance importante. Et on fait le lien, on est obligé de faire le lien avec ses problèmes de santé. Alors, j'y dis toujours, en fait, malheureusement, il n'y a pas que les crétins des Alpes, on a aussi le crétinisme dans l'Atlas. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent en classe, et on le constate, qui ont des retards mentaux énormes, qui consultent pour des problèmes de surdité, les femmes consultent pour des problèmes d'avortement à répétition, des goitres.
Tout ça pour un manque d'iode.
Voilà. Alors, il faut aussi surveiller, et là, peut-être une petite anecdote d'une étudiante à moi, donc du club, qui faisait son exposé et qui, essayant de mimer le goitre et en faisant une mimique un peu comme si c'était désagréable, pour expliquer que la carence en iode pouvait entraîner ces goitres. Et là, il faut vraiment être à l'écoute de ces populations. C'est pour ça qu'en fait, on arrive et on les écoute. Parce que, en fait, il se trouve que dans ce village, tout petit village en particulier, le goitre était un symbole de beauté. On le tatouait même. Donc, il ne fallait absolument pas faire référence à ce goitre. Peut-être le crétinisme, peut-être. Donc, même en étant nous, Marocains, il faut toujours être à l'écoute. Parce que le message, c'est une opération de séduction. Si vous n'avez pas la confiance de ces personnes, et elles sont en confiance parce qu'il y a une opération médicale qui est là, mais si vous faussez cette confiance, le message ne passera plus à la suite. Donc il faut être très regardant vis-à-vis du message qui est véhiculé, et c'est souvent véhiculé, je ne l'ai peut-être pas dit, en dialecte local. Donc en fait, moi je parle le marocain, je suis marocaine, donc c'est un dialecte, mais quand c'est en berbère, il y a des instituteurs qui sont là, des collectivités locales qui sont là et qui traduisent le contenu donc, de cet atelier. Et nous, on est là quand même pour revalider le message, hein, parce qu'il ne s'agit pas de propager un message faux. Donc, on est toujours là, en veille, hein, pour valider le message et pour voir si, en fait, les choses ont été en bonne et due forme. Voilà.
Alors, le temps passe. On aurait pu parler des autres ateliers, notamment un atelier où vous constituez une petite station d'épuration pour montrer qu'une eau limpide n'est pas forcément une eau potable. Malheureusement, le temps passe. Combien d'enfants sont passés dans vos ateliers? Est-ce que vous arrivez à estimer le nombre d'enfants que vous avez rencontrés depuis 2006?
Alors, on peut estimer le nombre d'enfants parce qu'on les a devant nous. Depuis 2006, on estime à 10 000 enfants ciblés. Mais il faut voir qu'à travers eux, donc si on multiplie par deux, il y a aussi les parents, il y a aussi les instituteurs, parce que l'atelier va être reproduit par la suite. On cède le matériel quand on arrive dans ces lieux reculés pour les collectivités locales qui sont là. Pour assurer la pérennité du projet, on est là. Alors juste peut-être une anecdote, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à s'imaginer pourquoi ils viennent aussi nombreux. On ne les oblige pas, en fait, ce n'est pas une classe obligatoire. Et pour reprendre l'expression d'un enfant, ce n'est pas un cours comme les autres. Donc c'est vraiment, c'est quand même très convivial. Je vous ai dit, vous avez décrit pour l'eau aussi potable, on pourrait reprendre un geste qu'on corrige qui est chlorer l'eau. Parce qu'en fait, souvent, la fille qui va au puits néglige ce geste-là. Donc, en regardant sous le microscope, elle est persuadée que c'est un geste obligé pour au moins éviter les maladies hydriques. Donc, petite anecdote, moi, je vous avoue que quand j'ai vu arriver ces centaines d'enfants, j'ai pris peur et j'ai dit, d'abord, pour les séduire, il faudra que je prévoie une petite récompense. Alors, premier atelier, j'avais emmené des bonbons. D'abord, ça ne faisait pas du tout compatible avec l'atelier qui était à côté, qui était sur les préventions bucco-dentaires. Ça n'allait pas du tout. En plus, souvent, ils jetaient leurs petits papiers, donc ça souillait, ça ne respectait pas l'environnement, donc on rattrapait, etc. Et là, je disais, oui, ils sont venus pour les bonbons. Et ils reviennent pour les bonbons. Alors, l'action suivante, je n'avais pas mes bonbons. Et vous savez, ils sont venus quand même. Et même, ce qui me touche vraiment, c'est que des fois, ils reprennent l'atelier. Parce que, en fait, ces enfants, souvent, on ne leur accorde pas le temps qu'il faut. Les mamans sont très prises. Et en fait, ils sont des adultes, de petits adultes, comme les parents sont des grands enfants. Donc, ils sont là parce qu'ils aiment et qu'on s'intéresse à eux et qu'on prend de notre temps pour discuter de leur quotidien et pour essayer de l'améliorer. Voilà. Et en échange, ils nous apportent tellement avec leur sourire et en nous montrant leur région que c'est absolument, on est dans l'échange et dans le partage.
Alors, on arrive au terme de notre émission. Il y aurait encore beaucoup d'autres questions à vous poser, mais est-ce que vous arrivez à avoir un retour maintenant depuis 2006? Est-ce que, comme vous rencontrez de nouveau de temps en temps ces enfants, est-ce que vous les voyez sous un autre jour? Est-ce que leur ouverture est différente? Est-ce qu'ils vous reconnaissent? Comment ça se passe? Et puis, deuxième et dernière question, à quoi va vous servir ce prix? Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'une reconnaissance par vos pairs scientifiques?
Ah oui, c'est sûr. En fait, c'est vrai que pour évaluer un petit peu l'impact de ces actions, j'ai vu, bon, ça sera toujours des choses ponctuelles, mais qui sont très parlantes. Donc, 2006-2011, ça nous fait 5 ans de plus. Et je suis retournée voir des jeunes filles qui, grâce à ces ateliers, mais qui sont persuadées que rester au collège et peut-être aller au lycée même, parce qu'en fait, le Maroc met en place des internats, etc. C'est quand même un espoir pour elle de voir autre chose. Et aussi, elle s'identifie, je pense. Le fait qu'une femme intervienne, c'est pas anodin. Elles se projettent et puis elles disent que si une Marocaine y est arrivée, il n'y a pas de raison. Si elles ont l'ambition, en tout cas, si elles ont la force, je pense qu'elles peuvent. J'ai vu une jeune fille, ses parents l'ont sollicité pour faire des tâches ménagères, pour rester dans le foyer, a combattu pour aller s'inscrire au lycée. Ne serait-ce que cet exemple-là est bon, absolument beau et parlant. Donc, peut-être des petites choses comme ça. Mais en tout cas, au niveau concret, on a des demandes très, très fréquentes de montage d'ateliers dans le milieu rural, avec des nouveaux ateliers. Donc, avec mon club universitaire, on monte des nouveaux ateliers adaptés qui sont portés dans le milieu scolaire et adaptés au milieu rural. Donc, c'est ce souci d'aller au service du milieu rural, l'urbain au service du milieu rural. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, HF Mikou. Merci aussi à Edouard Brézin d'être venu pour cette émission. On vous souhaite donc bonne continuation.
Peut-être
bonne
un
route.
Mot sur l'avenir, hein, parce que et le prix, pourquoi? Je pense que c'est une reconnaissance de grandes personnalités comme des membres de l'Académie des sciences. Souvent, on a aussi besoin d'une reconnaissance internationale pour avoir une reconnaissance nationale. Bon, ça paraît assez paradoxal. Mais au niveau, en tout cas, d'un projet fédérateur au niveau du Maroc, on pourrait, disons, mutualiser les efforts pour agir dans différentes régions avec des institutions, avec des implications officielles de certains secteurs du ministère de la Santé ou délégation nationale. Et puis, bien sûr, je le dédie à ces enfants-là. Donc, c'est sûr que ce prix va aller pour ces étudiants qui sont au service du rural, pour ces enfants, pour remonter sans arrêt des ateliers et laisser en fait des dispositifs sur place pour que les maîtres puissent par la suite reprendre le projet.
Donc la transmission des savoirs se perpétue ainsi.
Merci. Oui,
merci
oui,
HF Mikou d'être venu nous voir. On vous souhaite bonne continuation et bonne route sur ces chemins avec les randonneurs, association installée au Maroc. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Thank you.